Oua Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Gabi Dorsil et Anastasie Tudiech, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition du mercredi 14 décembre 2016. Au sommaire ce soir.
République démocratique du Congo. Les autorités annoncent la suspension du championnat national. Elles craignent des débordements alors que la tension monte à l'approche de la fin du mandat de Joseph Kabila.
En Gambie, Yahya Jammeh persiste et signe. Les résultats de la présidentielle doivent être annulés.
Mahmoud Thiam, ancien ministre guinéen des Mines, a été arrêté à New York dans une affaire de corruption.
Guerre en Syrie, les rebelles d'Alep jurent de se battre jusqu'à la mort.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Le secrétaire général des Nations Unies condamne l'occupation du siège de la commission électorale gambienne par les forces de sécurité hier, au moment où quatre chefs d'État ouest-africains s'apprêtaient à arriver à Banjul pour tenter de trouver une solution à la crise. Ils sont repartis sans parvenir à un accord sur le départ de Yahya Jammeh. Abdourahmane Dia nous en donne les détails.
Il faudra encore attendre pour voir la Gambie trouver une solution au statu quo né du revirement de Yahya Jammeh. Les quatre chefs d'État libériens, sierra-léonais, ghanéens et nigériens sont repartis sans donner d'informations claires sur la suite du processus. La libérienne Ellen Johnson Sirleaf, qui dirigeait la délégation, a tout simplement dit à la presse qu'il fallait plus qu'une journée pour trouver une solution. Le parti du président gambien a lui entamé la bataille judiciaire en déposant un recours devant la Cour suprême. Le seul problème est que cette cour n'est pas au complet car en ce moment, elle n'est constituée que d'un seul juge venu du Nigeria. L'ordre des avocats gambiens estime que cette cour ne peut pas statuer et demande à Yahya Jammeh de reconnaître sa défaite. Mais rien n'indique que ce sera fait. Hier, les forces de sécurité ont investi le siège de la commission électorale et son président, Aliomo Ndiaye, a été empêché d'accéder à son bureau. Il s'est par la suite dit inquiet pour sa sécurité, un acte que le secrétaire général de l'ONU considère comme un acte de défiance envers la communauté internationale et prévient que ceux qui seraient responsables de violations de droits humains pourraient répondre de leurs actes.
Human Rights Watch a demandé aujourd'hui aux autorités nigérianes de mettre fin à la répression contre le groupe chiite du mouvement islamique du Nigeria et de libérer Ibrahim Zakzaki, son leader, en accord avec une décision de justice. Début décembre, l'État de Kaduna avait demandé que M. Zakzaki soit tenu responsable pour sa désobéissance civile depuis 30 ans, alors qu'un juge venait d'ordonner sa libération dans les 45 jours. Ibrahim Zakzaki et son mouvement, interdit dans l'État de Kaduna, veulent établir un État islamique chiite à l'iranienne et ne reconnaissent pas l'autorité d'Abuja.
Suspension du championnat de football en République démocratique du Congo à l'approche du 19 décembre. Le gouvernement congolais a suspendu le championnat de football de première division, craignant des violences. Cette décision intervient à moins d'une semaine de la fin du mandat du président Joseph Kabila. Nicolas Pinault fait le point.
Oui, cette suspension est effective à partir de demain et jusqu'au 14 janvier. C'est ce qu'a expliqué à VOA Afrique le ministre de la Jeunesse et des Sports, Denis Kambayi. Il justifie cette mesure par des craintes, je cite, de violence et provocation pendant les matchs. Il dément que la mesure ait été prise en raison du contexte politique tendu à l'approche du 19 décembre en RDC. Selon M. Kambayi, il ne faut pas tout mélanger. La violence est devenue une violence à répétition. Pourtant, depuis plusieurs mois, on sait que le public de Kinshasa profite des matchs, des équipes de la Lina Foot ou encore des Léopards pour entonner le chant Yebela, fais gaffe en Lingala ou encore lancer des mandats Essili, le mandat est terminé et autres slogans hostiles au président congolais. Selon Denis Kayambi, l'autorisation a été donnée à la Lina Foot pour organiser le championnat, mais il fallait assurer l'encadrement des supporters et la sécurisation des compétitions. Et bien selon M. Kayambi, depuis 2015 et malgré une campagne de civisme sportif, il constate que la violence perdure et donc, selon lui, la Lina Foot est incompétente pour gérer cette violence. Sur VOA Afrique, le ministre congolais affirme que cette suspension pourrait être étendue au-delà de janvier 2017 si la Lina Foot ne rétablit pas l'ordre dans les stades congolais.
En Ouganda, 152 personnes, dont le roi du Rwenzururu, ont été inculpées pour trahison en lien avec des violences qui avaient fait au moins 87 morts fin novembre dans l'ouest du pays. Selon la police, des policiers avaient été matraqués par des gardes du souverain local liés à un mouvement prenant la création d'une république de Hiera sur la zone frontalière entre l'ouest de l'Ouganda et une partie du nord Kivu en République démocratique du Congo. Les accusés, par la voix de leur avocat, rejettent ces accusations et affirme que tout a été fabriqué de toutes pièces par l'État. Le roi avait été inculpé pour terrorisme, vol aggravé et meurtre, qui sont passibles de la peine capitale en Ouganda.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a dénoncé aujourd'hui les violences sexuelles et ethniques qui ravagent le Soudan du Sud et a réclamé le déploiement immédiat d'une force régionale de 4000 hommes. Selon une étude du Fonds des Nations Unies pour la population réalisée en juin, 70% des femmes réfugiées dans un camp à Djouba, la capitale, ont avoué avoir été violées. Le haut-commissaire aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, a souligné que 4 800 000 personnes privées de ressources sont exposées à la menace tout à fait réelle de grave insécurité alimentaire et de famine.
Le Qatar a rejeté tout lien avec le sanglant attentat dans une église du Caire et accusé les autorités égyptiennes de chercher à l'impliquer. Le ministère qatari des Affaires étrangères a rappelé qu'il condamnait le terrorisme sous toutes ses formes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, l'accord prévoyant l'évacuation des civils de la ville d'Alep a été suspendu après des objections du régime de Damas. Le point avec Nani Talani.
Le régime syrien a exprimé son désaccord sur le nombre élevé de personnes qui devaient être évacuées. Damas veut également avoir une liste de tous ceux qui vont sortir pour s'assurer qu'il n'y a aucun otage ou prisonnier pour régime. De leur côté, les rebelles soutiennent que le régime et ses alliés, notamment iraniens, ont imposé de nouvelles conditions, donc l'accord est suspendu. Yasser al-Youssef, responsable d'un groupe rebelle, accuse le régime d'avoir voulu lier cet accord à d'autres dossiers, notamment Foua et de Kefraya, deux localités assiégées par les rebelles dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest du pays. La Turquie accuse également le régime syrien et les groupes armés qui lui sont affiliés d'empêcher la mise en œuvre du cessez-le-feu. Pour le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, l'évacuation n'a pas pu avoir lieu et la faute repose sur Damas.
Le roi Salman d'Arabie Saoudite s'est dit déterminé à empêcher que le Yémen devienne une base ou un point de passage pour un pays ou une partie menaçant la sécurité du royaume. L'AFP relève dans cette déclaration une allusion apparente à l'Iran et au Hezbollah libanais, bien qu'aucune mention de ces deux entités n'ait été faite par le souverain wahhabite. Des responsables saoudiens et du Golfe accusent régulièrement Téhéran et la ministre libanaise, pro-iranienne, d'aider militairement les rebelles yéménites houthis qui contrôlent la capitale Sanaa et le nord du Yémen, frontalier de l'Arabie saoudite.
Le ministre britannique chargé du Brexit, David Davis, n'a pas exclu aujourd'hui un accord de transition avec l'Union européenne, le temps de définir de nouvelles relations après la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Le ministre des Finances, Philip Hammond, s'était prononcé lundi en faveur d'accords de transition pour faciliter le Brexit afin d'éviter les perturbations, notamment sur le système financier. Un scénario qui prend chaque jour plus de consistance.
Ici aux États-Unis, écho de la transition. Donald Trump a fait le choix d'un ancien adversaire lors des primaires républicains, l'ancien gouverneur du Texas, Rick Perry, pour le poste de secrétaire à l'énergie. En 2012, Perry s'était fait ridiculiser dans les médias pour avoir oublié le nom de ce département qu'il voulait pourtant supprimer. Par ailleurs, le président élu américain était à New York pour une rencontre de réconciliation avec les géants de la technologie. Monsieur Trump avait prévu de s'entretenir avec des patrons de la Silicon Valley, représentant Apple, IBM, Microsoft et Alphabet, la société mère de Google. Ce secteur a des relations très tendues avec le futur locataire de la Maison Blanche.
Pékin semble avoir érigé plusieurs grandes structures de défense militaire sur des îlots artificiels en mer de Chine méridionale. Des photos aériennes publiées dans un rapport déjà Maritime Transparency Initiative montrent l'accumulation de grands canons anti-aériens ainsi que de systèmes moins importants. Selon le rapport, de telles installations devraient servir de dernière ligne de défense contre d'éventuelles attaques visant les bases aériennes qui seront bientôt opérationnelles dans ces zones contestées.
Vladimir Poutine reste l'homme le plus puissant du monde devant Donald Trump et Angela Merkel, selon le classement 2016 du magazine Forbes publié aujourd'hui. Nathalie Barge.
Vladimir Poutine est à la tête du classement Forbes pour la quatrième année consécutive. Donald Trump arrive deuxième, tandis que Barack Obama dégringole de la troisième place en 2015 à la 48e position. La chancelière allemande Angela Merkel est troisième devant le président chinois Xi Jinping et le pape François. La gouverneure de la Banque centrale américaine, Janet Yellen, est sixième devant Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, talonné par Larry Page, dirigeant d'Alphabet, la maison mère de Google. Le premier ministre indien Narendra Modi arrive en neuvième position devant Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Seulement six femmes figurent dans ce classement de 74 personnalités, dont la PDG d'IBM, Ginni Rometty, celle de General Motors, Mary Barra, la patronne du FMI, Christine Lagarde, et la première ministre britannique, Theresa May, qui a décroché la 13e place.
Voilà pour le journal. L'actualité économique, c'est avec John Linden.
Au Maroc, la première réunion s'est tenue hier avec des responsables nigériens sur le méga projet de gazoduc ouest-africain vers l'Europe. Les discussions ont porté sur la faisabilité et le financement du projet. Ce projet a été annoncé début septembre à l'occasion de la visite du roi Mohamed VI à Abuja, où il avait rencontré le président Muhammadu Buhari. 7 milliards de dollars pour les pays les plus pauvres, c'est ce que la Banque africaine de développement va mettre à la disposition de 38 pays d'Afrique à faible revenu à travers le Fonds africain de développement. Ces fonds serviront justement à la réalisation des projets et des programmes de développement. L'Égypte vient d'augmenter ses droits de douane pour 320 produits d'importation afin de soutenir l'industrie locale et de réduire les dépenses en dollars, ce qui devrait lui rapporter un supplément financier d'environ 335 millions de dollars par an. Parmi les produits concernés figurent par exemple les produits laitiers, les chaussures de sport et les ventilateurs qui ont été majorés à 60%. Les dépenses des banques africaines dans les...
Les sports à présent avec vous, Nicolas Pinault. Bonsoir.
Bonsoir, Anastasie.
En Coupe du monde des clubs de football, l'Afrique n'a pas pu sauver l'honneur.
Dans le match pour la cinquième place, les Mamelodi Sundowns ont été sèchement battus 4 buts à 1 par les Sud-Coréens du Jeonbuk Hyundai. Ils terminent donc sixième et dernier de cette compétition. La sensation est venue lors de la première demi-finale, puisque l'équipe japonaise des Kashima Antlers s'est qualifiée pour la finale en battant 3-0 la formation colombienne de l'Atlético Nacional, pourtant favorite.
Et puis, première historique, le premier pénalty accordé par arbitrage vidéo dans une compétition FIFA.
Oui, la FIFA utilise, vous le savez, pour la première fois lors de ce mondial, l'assistance vidéo à l'arbitrage selon un protocole d'expérimentation, notamment pour les buts marqués, les cartons rouges, les pénaltys ou alors pour savoir qui a fait la faute. Cette expérimentation doit durer 2 ans avant une décision en mars 2018 selon le président de la FIFA, Gianni Infantino.
Football toujours, la seconde affiche opposera demain les Espagnols du Real Madrid aux Mexicains de Club América.
L'occasion pour la mégastar Cristiano Ronaldo de faire briller son 4e ballon d'or et d'oublier aussi le scandale d'évasion fiscale qui l'entoure en Europe, les Football Leaks. Cristiano est très motivé pour ce match comme toujours, a assuré Zinedine Zidane, son entraîneur. On rappelle, Anastasie, que le Real s'est envolé pour le Japon sur un 35e match d'affilée sans défaite. Toute compétition confondue, nouveau record pour le club. Et la Casablanca peut aborder ce mondial des clubs sereinement puisque les représentants européens ont remporté le trophée 8 fois sur les 9 dernières compétitions. Enfin, sachez que les Espagnols sont privés de Gareth Bale qui soigne une cheville. Également au repos, le capitaine Sergio Ramos.
Et puis première canne de beach soccer.
Et elle se joue au Nigeria, à Lagos, hier dans le groupe A. La Côte d'Ivoire a atomisé le Ghana 5-0. Le Nigeria a dominé l'Égypte 3-2. Et dans le groupe B, le choc, le match spectacle. Madagascar qui a dominé la Libye 9-5. Et le Sénégal qui s'impose devant le Maroc 2-1. Le programme ce mercredi, Égypte-Ghana, Côte d'Ivoire-Nigeria dans le groupe A, Libye-Maroc et Sénégal-Madagascar dans le groupe B.
Et enfin, la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Golden State a souffert, mais les 30 points de Stephen Curry ont permis aux Warriors de s'imposer face à la Nouvelle-Orléans, 113-109. Cleveland a été intraitable à domicile face à Memphis, 103-86. Et puis à Chicago, Minnesota a battu les Bulls, 99-84.
Merci Nicolas Pinault.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie, Anastasie Tutiesh et Chérubin Gabi Dorsil. Place au dossier du jour.
Première escale, Ouagadougou, aux États-Unis, plusieurs...
On commence le préférence à New York.
Oui, on commence à New York, pardon. Où plusieurs médias rapportent que l'ancien ministre guinéen des mines, Mahmoud Thiam, a été arrêté hier à New York pour avoir perçu des pots de vin de deux entreprises chinoises en échange de contrats. Il est reproché à M. Thiam d'avoir reçu environ 8,5 millions de dollars, un montant qu'il aurait ensuite fait transférer pour l'achat notamment d'une propriété à Manhattan. Par l'entremise de son avocat, l'ancien ministre Thiam a rejeté les accusations portées contre lui, comme l'explique à Jacques Aristide Al-Hussein Ba, un activiste guinéen basé à New York qui suit l'affaire de très près.
Il y a beaucoup de sites d'information qui ont relayé l'arrestation de monsieur le ministre Mahmoud Thiam, qui est ancien ministre, qui a été ministre au temps du CNDD après le coup d'État qui a mis Dadis Camara président de la Guinée. Il était ministre de 2009 à 2010 avant l'arrivée du professeur Alpha Condé. En ce qui concerne cette affaire, il y a les sites qui ont relayé qu'il a reçu des pots de vin d'une valeur de 8 500 000 dollars avec deux compagnies chinoises à partir de Hong Kong. Mais les noms de ces compagnies-là n'ont pas été révélés pour le moment. Et selon ces informations, il a donné des informations qui ne reflétaient pas sa position de ministre. À l'époque, il a ouvert des comptes et il a acheté une maison à New York, le lieu qu'on appelle le Upper East Side, un appartement d'une valeur de 3,75 millions. Donc c'est comme ça qu'il a été traqué. Il a mis ses enfants à l'école et on a vu aussi un autre paiement d'une valeur de 46 375 000 pour une compagnie de piano.
Savez-vous si l'ex-ministre Thiam a réfuté les accusations portées contre lui?
Pour le moment, selon les informations qui circulent, oui, il a réfuté les accusations. Son avocat, M. Solomon, a dit que simplement que ça, c'est une fumée d'informations, il n'y a rien de consistant. Selon ces informations plus loin, le juge a refusé clairement qu'il paye une caution pour qu'il soit libéré provisoirement, parce que selon l'assistant du procureur, on dit clairement qu'on ne peut pas porter confiance à M. Thiam pour le libérer provisoirement. Et ce qui me paraît un peu bizarre, parce que c'est un citoyen américain, il ne peut pas sortir du territoire américain si il décide de le libérer provisoirement. Aujourd'hui, personnellement, j'ai essayé de contacter le bureau du district attorney en tant qu'un acteur de la société civile guinéenne pour m'enquérir des informations sur ce cas. Mais il s'avère qu'il n'y a ni sur le site du procureur du district attorney of Manhattan ici aux États-Unis, il n'y a aucune information directement sur ce site. Je suis allé sur leur page Facebook et il n'y a aucune autre information sur le cas afférent à Mahmoud Thiam. On m'a donné au niveau du bureau du procureur un site là où on met toutes les références des cas de crime à New York ici. Et j'ai mis la référence qui a été mise sur le site de Reuters. Vous partez sur ce site qu'on appelle webcrimes.com. Vous n'allez pas trouver des informations. Donc c'est ce qui me paraît un peu bizarre sur ce cas. Je pense que la population guinéenne doit faire très très attention en suivant le cas de près pour comprendre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai.
Al-Hussein Ba, vice-président de l'ONG Alliance Guinée, joint à New York.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Centrafrique, environ 150 participants sont attendus pour la première concertation sur la chefferie traditionnelle, dont les travaux s'ouvriront le vendredi 16 à Bangui, en présence du président de la République, Faustin Archange Touadéra. Cet événement, organisé par l'ONG Afrique Secours et Assistance, entre dans le cadre de la cohésion sociale et de la paix basée sur la redynamisation de l'État par la base. Il découle des recommandations du Forum de Bangui. Les explications d'Evelyne Adam, représentant pays en RCA, jointe par Félix Yepassis Zembro.
La tenue d'une concertation des chefs traditionnels à Bangui répond à un constat que nous avons fait, c'est que à Bangui, nous avons cherché pour la résolution de la crise en Centrafrique tous les moyens de résoudre la crise, sauf de regarder nous-mêmes dans nos traditions. Est-ce qu'il y a des réponses véritables pour résoudre les crises? Nous pensons que la réponse est oui. Il faut faire un retour aux sources, chercher dans nos sources si nous avons les moyens de pouvoir résoudre nous-mêmes nos crises. C'est ainsi que nous décidons, en tout cas, de faire la concertation nationale avec les chefs. Dans un symbole, c'est la Centrafrique. La Centrafrique, c'est le centre de l'Afrique.
Quel cadre juridique préconisez-vous pour la chefferie traditionnelle?
C'est vrai qu'il n'y a pas véritablement de cadre, parce que l'ordonnance qui est présente en Centrafrique, c'est une ordonnance qui est déviée, qui date depuis la colonisation. Donc ce que nous sommes en train de chercher à faire avec le ministère de l'Intérieur, c'est de voir comment est-ce qu'on peut proposer une nouvelle loi à l'Assemblée nationale qui va redynamiser justement la chefferie traditionnelle en Centrafrique.
Quel rôle la chefferie traditionnelle pourra-t-elle jouer auprès de l'autorité de l'État?
Ce que la chefferie traditionnelle faisait quand c'était le Centrafrique. La chefferie traditionnelle, les chefs étaient les garants du patrimoine. Les chefs étaient les garants de la paix. Les chefs étaient les garants du bon vivre ensemble. Et la meilleure manière de justement gérer nos villages, la meilleure manière d'inculquer à nos jeunes les notions de citoyenneté, du respect de la hiérarchie, c'est d'abord de donner ce pouvoir-là à nos chefs pour qu'au plan local, ils puissent pouvoir gérer leur localité.
Cette concertation est une grande première, c'est la toute première concertation en Centrafrique?
Oui, c'est une grande première en Centrafrique. C'est pour ça que nous sommes heureux de voir que nous avons l'appui du gouvernement centrafricain qui, avec tous les ministères, nous appuie véritablement. Nous avons l'appui aussi de certains bailleurs tels que de HR, le PNUD. C'est vraiment une grande première en Centrafrique. On espère que cela donnera les résultats escomptés.
Elle regroupera cette concertation tous les chefs traditionnels du pays, de la République centrafricaine?
Nous n'aurons pas tous les chefs traditionnels, mais nous aurons les plus représentatifs et ceux qui ont pignon sur nous. Donc nous avons demandé au ministère de l'Intérieur de nous aider dans ce débat.
Voilà, c'était Evelyne Adam, représentante pays en RCA.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
À Kolwezi, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, les populations dénoncent la pollution de trois rivières qui les fournit en eau potable et autres travaux ménagers par trois entreprises minières. Depuis Lubumbashi, le point et les détails avec notre correspondant Narval Mabila.
Kolwezi, dont la nouvelle province du Lualaba est touchée depuis plusieurs semaines par la pollution des trois cours d'eau, la rivière Luilo, Mosenoy et la Kabongo, au banc des accusés, trois entreprises minières. La population continue à se plaindre jusqu'à ces jours à qui veut l'entendre. Voici le témoignage de M. Kassango, rencontré sur les ponts de la rivière Luilo, à 18 km du centre-ville de Kolwezi.
Cette rivière desservait en eau, même eau potable aux gens. Il y a eu un temps que cette rivière a été polluée par la société Commune. C'est une entreprise chinoise de la place. Après avoir pollué, la population a réclamé, mais il n'y a eu rien comme réaction du côté gouvernement en place. Les Chinois ont essayé de venir mettre un peu de chaud pour diminuer les taux de l'acide, mais ça n'a pas été pour le moment. Il y avait les poissons, donc dans cette rivière, il n'y a pas de vie. On ne sait pas à qui est-ce qu'on peut recourir pour régler cette situation. Ils ont essayé d'indemniser quelques maisons, si c'est 3 ou 4 maisons comme ça, mais apparemment ils sont très puissants. Comme le gouvernement ne met pas la pression sur eux, l'immigration, s'ils arrivent là-bas, ils n'arrêtent jamais ces gens-là. Si vous essayez seulement d'arrêter quelqu'un là-bas, on appelle directement la présidence.
L'eau potable est devenue un calvaire face à cette situation. Et l'alerte à la pollution, une commission des députés provinciaux du Lualaba ont mené des investigations sur terrain. Et voici la synthèse de l'honorable Lumuna, qui est le rapporteur de la commission d'enquête.
Nous avons visité seules trois rivières, le lac Kabongo, la rivière Mosenoy et la rivière Luilo, qui ont été réellement touchées par la pollution, par trois sociétés de la place. Il y a le lac Kabongo qui est pollué par les eaux, par les débris, et il y a la rivière Mosenoy qui est aussi trop dérangée par Comus. Et nous avions dit qu'il y avait aussi une petite partie de KCC, parce qu'avant que KCC ne ferme, il avait exploité. Et lorsque la pollution est là, il y a la dégradation du biosystème. Nous sommes descendus à Luilo. Là, réellement,
il y a eu un accident à Sicomine qui a fait que l'eau était polluée. L'acide s'était déversé dans la rivière. Et réellement, nous avons trouvé qu'il y avait des choux, les alimentations qui étaient brûlées. Le rabattement de la poussière n'a pas été respecté par les sociétés de la place. Pensons que la pollution est effective.
Sicomine, Comus, deux entreprises chinoises, parmi les accusés, ont refusé à faire tout commentaire. Seule l'entreprise KCC nous a répondu par les biais de son président de conseil d'administration, M. Zeng, qui nie tout en bloc et nous sommes allés rencontrer à Lubumbashi.
Nous ne sommes pas concernés par une activité de pollution quelconque sur la rivière Moussonoï. Notre concentrateur se trouve à plus ou moins 12 km de cette rivière-là. Et puis, il n'y a pas d'activité de production chez nous. Nous sommes à l'arrêt depuis le 15 septembre 2015. Donc, nos activités sont éloignées de cette rivière-là-bas.
La population reproche les autorités de ne pas se préoccuper de la pollution et préfère plutôt organiser des fêtes chaque semaine. De retour de Kolwezi, Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
Dans Washington Forum ce jeudi, on revient sur la volte-face en Gambie de Yahya Jammeh. L'ancien président est sous pression après sa brusque annonce de ne plus reconnaître sa défaite à l'élection présidentielle face à Adama Barrow. La CDAO a dépêché une mission à Banjul. Qui peut le convaincre d'accepter définitivement le résultat des urnes? Quel est le rôle de l'armée dans cette crise? Quelle est la marge de manœuvre de l'opposition dans ce bras de fer? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Poursuivons maintenant la série de VOA Afrique sur Flint, cette ville du Michigan aux États-Unis, dont les habitants ont bu de l'eau contenant du plomb pendant 18 mois. Aujourd'hui, nous reparlons de Flint et des conséquences pour la santé des habitants. Nastasia Peteuil s'est rendue sur place pour faire l'état des lieux.
Il y a deux ans, en avril 2014, la ville de Flint décide de se fournir en eau potable depuis sa propre rivière, au lieu de l'acheter à Détroit. Elle pense alors faire des millions de dollars d'économies. Mais 18 mois plus tard, en octobre 2015, plusieurs lanceurs d'alerte dévoilent que l'eau est contaminée au plomb. Parmi eux, Dr Mona, pédiatre à l'hôpital de Flint. Depuis un an, elle se bat pour trouver des solutions face à cette crise sanitaire.
Nous avons les ressources en place, des bouteilles d'eau et des filtres sont disponibles dans les centres de distribution. Nous avons débuté nos efforts de reconstruction pour être sûrs que nos enfants aient toujours un avenir radieux devant eux.
L'eau a contaminé des femmes enceintes et des enfants, les plus sensibles face au plomb. Au jour le jour, la pédiatre essaie d'aiguiller les familles dans ce traumatisme.
Quand les parents viennent me voir, la première question qu'ils me posent est « Est-ce que ça va aller pour mon enfant ?» Et qu'est-ce que je peux répondre à ces mamans ? Pendant plus de deux ans, leur enfant a été contaminé par de l'eau composée de plomb. J'essaie de leur expliquer ce qu'elles devraient faire et peuvent faire.
Du côté des adultes, c'est l'équilibre mental qui a été touché. La confiance a disparu et les résidents commencent à être fatigués de voir la situation figée. Le révérend Dawson encourage ses paroissiens à parler à des spécialistes. Il a vu une montée de l'anxiété dans sa communauté.
Quelques personnes sont venues me voir avec des tendances paranoïaques. La méfiance s'est répandue à cause de l'eau contaminée. Ils ont entendu une chose, mais la réalité était très différente.
Et parfois, les habitants sont anxieux, voire en colère. Le révérend essaie de calmer les esprits comme il le peut.
Il y a de la frustration, mais aussi de la colère, jusqu'au point où certaines personnes sont au bord de la crise de nerfs à cause de la lassitude, de la rage, et j'essaie de les calmer.
Les maladies mentales se sont développées à grande vitesse à Flint. Le plomb et la défiance ont accéléré de nombreuses pathologies. La ville a mis en place des cellules psychologiques pour aider la population. Mais est-ce que cela guérira la méfiance envers le système politique?
Demain, on parlera avec Nastasia Peteuil des personnes inculpées et du ressentiment des habitants à l'encontre du gouverneur du Michigan.
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Georges Léonard Sagnot, à la console, Nachouane Calé. Merci pour votre attention. Présentation, Anastasie Tuguièche et chérubin Gabi Dorsil. Restez sur VOA Afrique.
Ainsi va le monde aujourd'hui.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.